très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Karina Rosenfeld, donc, qui a fait le voyage jusqu'à nous pour une rencontre autour de la sortie de son nouveau roman, donc le tome 2 de la série Phénix, Le Brasier du Souvenir. Et une petite présentation de Karina, qui est un auteur un peu béni des dieux, je trouve. Hein.
Ah bon ?
Moi, c'est l'impression que j'ai. Une carrière, ça fait quoi ? 10 ans ? 12 ans ? Un peu plus ?
Que
vous écrivez ?
5 ans.
5 ans, c'est tout ? Attention, je suis plus intéressée par les lettres que par les chiffres. Tout s'explique. Je me suis trahie. Donc, en 5 ans, quand même, 2 fois le prix des Incorruptibles. 2 années de suite, 2011-2012
2010-2011.
Et donc, j'ai pas de notes, c'est pour ça. Et donc, voilà, une situation assez exceptionnelle pour qu'on la souligne. Donc, une fois pour Les Clés de Babel et l'autre fois pour La Quête des Livres au Monde. Moi, je trouve que c'est déjà un très, très beau début. Donc, 2 séries, La Quête des Livres au Monde et Phénix, Le Mystère Olfite, Les Clés de Babel, des livres aussi de science-fiction pour les plus jeunes. Donc c'est une romancière qui écrit pas mal, en quantité, mais surtout en qualité. Et un univers dont on va parler aujourd'hui, donc pour découvrir surtout Phénix, mais on aura l'occasion de parler des autres livres que j'ai beaucoup aimés aussi, certainement. Donc Phénix, comment présenter sans trop en dire ? Je vous laisse faire, Karina.
C'est toujours l'exercice le plus difficile. C'est parler d'un livre sans spoiler les gens qui ne l'ont pas encore lu. Surtout que là, tout le livre tient sur un mystère. Donc, c'est difficile de parler du livre sans parler du mystère. Mais en même temps, si je parle trop du mystère, je dévoile la raison du livre. Donc, c'est un peu du jonglage. En fait, surtout, je pense le point qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de recréer le mythe du phénix. Donc le mythe du phénix, c'est un oiseau millénaire qui renaît de ses cendres après chaque mort. Et donc je suis partie de là. En fait, c'était surtout, j'avais envie d'écrire une romance. Ça, c'est sûr, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie d'explorer ce genre que j'avais pas encore exploré. Il y a des petites histoires d'amour toujours en toile de fond dans mes histoires, puisqu'il y a souvent un garçon et une fille qui vivent une aventure en commun et ça les rapproche forcément. Mais j'avais pas encore exploré la romance en tant que genre. Et on entend souvent parler de ce terme, les amants éternels, quand on parle de Roméo et Juliette, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, de rêverie en réflexion, à un moment, on se dit, mais quoi de plus éternel que le phénix qui renaît systématiquement de ses cendres? Et à partir de là, il y a tout qui s'est tricoté dans ma tête. Et comment revisiter un mythe en le mélangeant avec une histoire d'amour en essayant de le réécrire, tout en essayant d'en être fidèle aussi, en gardant ce qui fait son essence même. Voilà, donc c'était intéressant de naviguer sur ces eaux-là.
Alors on est à la fois dans un roman fantastique, puisqu'il y a une part de magie, le thème de la métamorphose, donc on peut voir aussi comme une allégorie, et on est en même temps dans un univers très quotidien, avec la vie d'une jeune fille donc, qui rentre en fac. Elle change complètement de vie au début du roman, puisqu'elle suit ses parents dans le sud de la France, dans la maison qui appartenait à ses grands-parents. Ils s'installent tous là, donc c'est une famille ordinaire, elle n'est pas orpheline. On n'est pas dans tous ces presque clichés, j'allais dire, hein, dans tout ce qu'on voit de roman en roman avec le même archétype de départ. Donc c'est une jeune fille qui mène une vie comme vous en vivez tous. Elle inquiète un petit peu par ses débuts à la fac. Elle rentre en première année de fac de lettres, en licence. Et le hasard va mettre sur sa route une connaissance, une jeune fille qu'elle a, une jeune fille qu'elle a croisée à plusieurs reprises pendant ses vacances, assez souvent pour en être devenue assez proche. Donc un univers qui se construit petit à petit. C'est une jeune fille qui est une jeune fille de son temps, qui communique par Facebook. Donc on a les échanges de messages qui clôturent quasiment chacun des chapitres.
Qui les commence,
oui,
c'est
exact.
C'est l'introduction. Oui. Il y a juste le premier parce que c'est la préface, donc il n'y a pas de
Et un prologue d'ailleurs qui, sans dévoiler l'histoire, laisse quand même des indices assez forts pour qu'on soit très, très intrigué.
Oui, en fait, j'aime bien partir de ce côté très quotidien et très normal chez mes héros. C'est aussi la même chose dans la quête des livres au monde. Hein. Mes héros aussi vivent une vie parfaitement normale. Mmh. Et c'est quelque chose que j'adore faire, c'est partir de cette vie normale qu'on peut tous avoir. Et c'est peut-être aussi le meilleur moyen de s'identifier avec ces personnages et d'évoluer vers quelque chose de plus fantastique, de plus inhabituel. Là, le prologue, c'est... Oui, c'est une façon de plonger directement dans l'histoire. Surtout que l'histoire est construite de façon assez lente, ce qui est parfaitement volontaire et réfléchi de ma part, à savoir que si je veux coller à la vie quotidienne, il ne nous arrive pas des tonnes d'aventures tous les jours. Donc il faut forcément une évolution lente dans le quotidien, comme ce qu'on vit tous les jours. Il y a des gens pour qui ça peut être gênant, ce côté très lent, mais c'est parfaitement voulu. Je voulais écrire une histoire qui se rapprochait presque du journal intime, qui était basée beaucoup sur les ambiances et les émotions et beaucoup moins sur l'action. Et le prologue, c'est un peu une goutte d'action avant de repartir dans quelque chose de lent. Et on se dit, bon, quand est-ce qu'on arrive à ce moment-là? À quoi ça correspond? Où est-ce qu'elle a voulu en venir? Et c'était fait un peu exprès pour... Et en même temps, quand on connaît l'histoire, on se rend compte que toutes les réponses sont déjà dans le prologue. Et ça, il faut avoir lu toute l'histoire pour s'en rendre
exactement.
Compte. C'est l'astuce.
Oui. En commençant, donc ce prologue est à la fois inquiétant un petit peu. Il est question d'une séparation. Donc c'est une voix masculine qui parle. Elle est partie, ils sont déchirés. Il n'a pas de réponse à son absence, et tout ça depuis des milliers d'années.
Là, il n'a pas depuis 4 mois.
Oui, depuis 4 mois. Mais c'est parce que je pense à l'extrait, en fait. Mais depuis 4 mois, effectivement.
Elle a disparu depuis 4 mois. Et...
Cette situation ne s'était jamais présentée en plusieurs milliers d'années.
Voilà,
c'était à ça que je pensais, en fait.
Effectivement, ils ne se sont jamais quittés en plusieurs milliers d'années. Et là, elle est partie, et ça fait 4 mois qu'il n'a plus de ses nouvelles. Donc, il est bancal, il lui manque sa moitié. Et il doit la retrouver, mais bon. Ça ne va pas marcher tout de suite.
Donc, des indices forts sur le côté fantastique et puis ces rêves qui sont aussi autant d'indices dans les nuits d'Ainaya.
Oui, je pense que c'est quand on a quelque chose enfoui en soi, comme c'est le cas chez elle, à mon avis, le cerveau envoie forcément des messages d'une manière ou d'une autre. Et ces messages-là, c'est un peu ces souvenirs qu'elle a perdus qui poussent une porte, qui la cogne en disant on est là, on est de l'autre côté, et ça apparaît à travers les rêves, parce que quand elle est en pleine conscience dans la journée, elle est bride complètement. On va comprendre pourquoi dans le tome 2 elle est si verrouillée, on va dire, mais quand elle dort, il y a ces verrous qui sautent un petit peu, il y a la porte qui tremble, et tous les souvenirs qui sont derrière et tout ce qui la constitue et qu'elle a relégué au fond de sa mémoire, qui essaye d'en sortir. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir le parallèle entre sa vie quotidienne et ce que son inconscient essaye de lui dire et essaye de lui souffler et qu'elle refuse de voir. Tout simplement, bon, il y a une raison pour laquelle, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a une bonne raison pour laquelle elle refuse de le voir. Ce n'est pas par hasard. Mais en effet, c'est une façon pour d'avoir les deux plans. Les deux plans, c'est... Et je me suis amusée à faire évoluer à chaque fois les rêves, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, ça change de cadre, mais à chaque fois, on varie un petit peu, on évolue vers quelque chose qui va toujours vers une solution, mais c'est lent, et parce que les messages lui viennent par petites bribes. En fait, c'est ce qu'elle accepte, ce qu'elle est prête à accepter, qui fait à chaque fois augmenter le voyage dans ses rêves.
Et c'est une construction très, très habile, en fait, avec deux tomes à l'ambiance un petit peu différente. Dans le premier volume, on a une tonalité finalement assez intime. On a un personnage qui, à travers ses rêves, donc se révèle en partie à elle-même, mais on la sent encore petite fille et dans le refus d'accéder à une certaine sensualité qui lui fait peur aussi. Et on est encore coincé par ce qu'on ne peut pas dire. Et dans le deuxième tome, on est plus peut-être dans le côté fantastique encore, puisque là, les révélations ont été faites à la fin du premier.
Oui, en fait, pour moi, l'histoire est vraiment un tout. C'est-à-dire que même si on finit sur un cliffhanger à la fin du tome 1, pour moi, l'histoire, elle se construit vraiment sur les deux tomes.
Oui, bien sûr.
On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. J'ai eu des gens qui trouvaient que le premier, ils étaient très... dérangée par certains détails dans le tome 1. Puis finalement, quand ils ont lu le tome 2, ils me disent « Ah, bah, ça a tout effacé. » Et c'est très bien, parce que c'était fait voir. Après, il y a des gens qui ont adoré le tome 1 et qui ont continué sur leur lancée. Mais pour moi, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire qu'on comprend tout en ayant lu l'ensemble de l'histoire. Et on comprend aussi que le tome 1, c'est la mort, c'est les cendres, c'est l'oubli, c'est la fin de quelque chose, et une fin qui a été dramatique, et sur laquelle l'héroïne est bloquée. Elle est restée dans cette mort, en fait. Elle est morte. Elle est vivante, mais elle est morte. Quand on lit, on comprend le livre, on comprend ce que... Quand on lit le livre, on comprend ce que je veux dire. Elle est vivante, mais elle est morte. Mais en fait, ce qu'elle est réellement est mort. Et cette partie-là se ranime forcément, renaît de ses cendres dans le tome 2. Nous, le thème du phénix, quand même, c'est quand même le principe. Il y a des cendres, il renaît de ses cendres. Oui. La flamme, l'oiseau, le brasier, etc. Et le tome 2, c'est la vie. Ça y est, elle retrouve le chemin de la vie, tout simplement. Elle retrouve le chemin de sa propre renaissance. Et donc, on est forcément dans une ambiance plus terne dans le tome 1. Et c'est vraiment, comme je dis encore une fois, c'est... après, c'est drôle parce que quand on lit des critiques, on a l'impression que les gens s'imaginent qu'on fait les choses un peu comme ça, plouplou, au hasard.
Je n'y crois pas.
Non, mais en fait, tout est vraiment très réfléchi. C'est-à-dire que s'il y a ce rythme-là, même parfois un peu un sentiment de froideur où des gens ont pu dire « mais je ne comprends pas les réactions de l'héroïne », etc. Bah oui, on ne les comprend pas encore. Ça va venir, soyez patients, vous trouverez toutes les réponses plus tard. Mais en réalité, dans le tome 1, tout ce qui la constitue réellement, fondamentalement, est mort. Elle est restée sur cette plage où elle est morte. On le voit d'ailleurs dans le tome 2, puisque c'est récurrent dans ses rêves. Et à la fin, il faut qu'elle ressorte, elle sorte de là. Et c'est un parcours personnel, c'est-à-dire qu'elle s'est mise toute seule dans cette situation, en quelque sorte. Bon, on l'a un peu aidée, mais elle a jeté une sorte de malédiction. Et cette malédiction, c'est elle qui l'a prononcée. Et c'est à elle de s'en sortir. C'est-à-dire que les deux garçons qui la côtoient, et qui font plein de mystères autour d'elle, ils pourraient lui balancer toute la réalité à la figure et lui dire « voilà, en réalité, c'est ça, 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 ça et ça ». Ça ne servira à rien, parce que les verrous qu'elle a à l'intérieur d'elle, il n'y a qu'elle qui peut les faire sauter. Et donc, c'est pour ça que c'est à elle d'évoluer. Et on voit ça sur le changement, sur les deux tomes. Et c'était indispensable qu'on ait l'intégralité de l'histoire pour comprendre pourquoi, dans le tome 1, on est vraiment, comme je dis, dans la mort, dans les cendres, dans quelque chose de froid, de fini, de presque de distant. Et puis ce brasier qui prend sur le tome 2, où là, ça y est, elle accepte de s'affronter elle-même et d'affronter le reste, ce qui est à l'extérieur. Et là, il y a tout qui s'allume et la vie qui revient.
Oui, elle est entourée effectivement de deux personnages dont on n'a pas encore parlé. Donc un blond, Henry, qui a l'air comme ça, très, très gentil, très agréable, très plaisant. Et un brin ténébreux, inquiétant et séduisant à la fois. Et en fait, on n'est pas tout à fait dans le trio amoureux classique. Ils veulent quelque chose.
Voilà. Je n'ai pas voulu du tout créer. Alors, il y en a qui disent on est encore dans le trio amoureux. Mais alors, pour moi, ce n'est pas du tout un trio amoureux. Je crois qu'on comprend quand même assez vite que Henry n'est pas du tout amoureux d'elle. Ou alors, on voit ce qu'on veut voir. Parce que je ne vois pas à quel moment il lui fait de vraies déclarations. Ça se voit quand même qu'il attend quelque chose d'elle. Et même quand il va sortir avec elle, on sent le calcul. Enfin, j'espère qu'on le sent le calcul, parce que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Donc, il n'y a pas de trio amoureux à mes yeux. Il n'y en a pas du tout. Il y a deux garçons qui sont là, qui attendent quelque chose d'elle, chacun pour une raison différente. Ouais. Une qui est plus égoïste que l'autre. Et on va dire que la vraie histoire d'amour, elle démarre vraiment à la fin du premier tome et vraiment sur le deuxième tome. Mais dans le premier tome, il n'y a pas d'histoire d'amour. Elle est amoureuse d'un garçon dont elle rêve. Ouais. Elle est amoureuse ni de Edan ni de Henry. Les deux, elle les apprécie pour certains points et il les énerve. Toutes les deux ont leur côté agaçant aussi. Et elle ne succombe à aucun des deux, à aucun moment. C'est seulement... une fois qu'elle a certaines réponses, que ça va entraîner quelque chose, que je ne vais pas tout dévoiler encore une fois.
Non, vous en sortez très bien.
Mais voilà, dans le tome 1, le garçon dont elle est amoureuse, c'est celui dont elle rêve. Ouais, c'est absolument pas les deux qu'elle côtoie et qui la côtoie pas pour la draguer ou pour l'inviter au resto ou pour des trucs comme ça. Ils la côtoient parce qu'ils attendent quelque chose d'elle, donc c'est intéressé.
Notamment qu'elle se souvienne, pas seulement. Pour le reste, je ne dirai rien. Ça serait vraiment trop dire. Et donc, elle est vraiment, sous l'influence de ses rêves et surtout obsédée par ses sensations, donc cette sensualité qui se révèle à elle dans ses rêves et cet homme dont elle ne voit pas le visage. Entre ses nuits, Et effectivement, ces nuits plus que ces jours, comme vous le disiez, le jour, elle revient à une réalité plus tranquille. La sensualité, c'est quelque chose qui m'a assez frappée. Je trouve que les scènes, plus que d'éveil aux sentiments, mais vraiment très sensuelles, sont très réussies. Parce qu'à la fois très, très chaudes et en même temps très pudiques, quelque part. Est-ce que vous avez travaillé ça dans le sens où vous avez voulu le rendre lisible, entre guillemets, pour des jeunes, ou c'est venu comme ça ?
C'est venu comme ça. C'est pas du tout travaillé. D'ailleurs, je pense que ça perdrait certainement d'une certaine magie si je le travaillais. Je crois que quand on écrit un roman, il y a une ambiance qui s'installe un peu d'elle-même, même si on a envie de la programmer un petit peu. On ne peut pas tout programmer. Bon, déjà, moi, je ne fais pas de plan, j'écris comme ça un peu au fil de la plume, donc je ne programme vraiment pas grand-chose en réalité. Et puis, c'est les mots qui viennent d'eux-mêmes dans les situations qui vont instaurer une ambiance. En plus, là, il y a la musique qui accompagne, donc c'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui se mêlent. Et au bout d'un moment, les mots, ils viennent d'eux-mêmes pour compléter cette ambiance, pour rester dans ce côté que j'ai voulu à la fois poétique, à la fois passionné. Voilà, la scène d'amour que j'ai écrite, elle est sortie comme ça toute seule et elle n'a pas été du tout changée. C'est-à-dire que quand les éditeurs l'ont reprise derrière, ils n'ont pas modifié du tout. Ils trouvaient qu'elle était parfaite telle qu'elle. Et du coup, c'est le premier jet quasiment qui est publié parce que je crois qu'il y avait une authenticité et que j'avais réussi spontanément à écrire cette scène exactement comme je le voulais et comme le voulaient mes éditeurs sur ce sujet, parce que c'est toujours délicat. Il y a quand même des lecteurs qui peuvent avoir 12-13 ans qui lisent ce bouquin. On n'est pas là pour faire de la pornographie non plus. On est là pour parler des choses de la vie, mais le plus joliment possible. C'est pas là. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le traumatisme. C'est pas le sujet du livre. Donc non, c'est quelque chose qui est vraiment venu naturellement. Je pense que j'étais dans cette veine poétique qui m'a habitée du début à la fin quand j'ai travaillé sur ce roman. Et bah du coup, les mots ils coulent d'eux-mêmes quand on est immergé dans cette ambiance et que quand on y retourne pour écrire le chapitre suivant, s'il y a quelque chose qui coule tout seul. Et c'était vraiment agréable à écrire parce que c'est très différent de ce que j'ai fait avant et je sais que ce sera différent de ce que je vais faire après parce que je suis pas trop du genre à me répéter, donc j'aime bien explorer des histoires, des mondes et des émotions différentes. Mais je crois que ça a lancé quelque chose en moi que j'avais peut-être pas avant et qui se retrouvera quand même dans mes autres romans, dans le genre, dans la façon d'écrire. C'était vraiment une belle expérience et c'est vrai que quand j'y pensais, je stressais un petit peu en me disant comment je vais pouvoir écrire ça sans tomber trop dans le figuratif et le descriptif, et parce que c'est pas le propos, je suis pas en train d'écrire Fifty Shades of Grey. Voilà. Mais j'ai aussi quand même envie de parler d'amour, et pas seulement d'amour dans l'esprit, l'amour aussi charnel, ça fait partie des choses de la vie, et j'avais envie de parler de tout ça, mais j'avais envie d'en parler avec mes mots et en même temps de la façon la plus jolie possible pour que ça colle avec le reste de l'histoire. Et au début, on se dit, bon, est-ce que ça va être réussi, tout simplement ? Est-ce que je vais réussir mon coup ? Est-ce que je vais être dans le ton ? Et puis en se laissant porter, ça finit par sortir et là, toutes les angoisses tombent et on se dit, il fallait laisser le texte. Et en fait, il faut laisser les personnages faire leur vie. C'est eux qui savent mieux que nous.
En tout cas, si ça m'a marqué, c'est parce que ce sont des scènes que j'ai trouvées très très réussies, mais vraiment voilà, naturelles et qui viennent au bon moment et avec les mots parfaits, quoi. Vraiment.
Merci.
Donc c'est absolument sincère. Est-ce que il me semble me souvenir qu'il est question à un moment d'Autant en emporte le vent?
Oui.
Est-ce que c'est pas par hasard, j'imagine?
Non, c'est
parce
pas
que
par hasard. La fin du tome 1, c'est ce que j'appelle une fin là, Autant en emporte le vent. Scarlett O'Hara. Elle a cet homme hyper viril, hyper sombre, hyper beau, hyper riche, hyper tout, qui s'appelle Red Butler, qui lui tourne autour pendant 1500 pages quand même. Il arrive même à l'épouser, mais bon, ils finissent quand même par séparer. Elle fantasme sur une espèce de gringalet blond un peu mollasson qui s'appelle Ashley pendant tout le bouquin. On a envie de lui dire, mais ouvre les yeux, quoi, ma cocotte, qu'est-ce que tu... Mais c'est Red, quoi, c'est l'homme idéal, pourquoi tu regardes ailleurs? Et sur les dernières pages, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Red depuis le début. 1500 pages pour s'en rendre compte, hein. Et au moment où elle va le voir en lui disant ça y est, je sais, il lui dit, mais ma chère, c'est trop tard, et il s'en va. Et là,
et voilà.
C'est la fin d'Autant en emporte le vent. Et quand je dis c'est la fin, c'est que l'auteur n'a jamais écrit la suite. Donc on reste sur cette fin. On peut imaginer tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a des suites qui ont été écrites par d'autres auteurs, mais qui, à mon avis, ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'aurait pu faire Margaret Mitchell elle-même. Ouais. Donc, il ne reste plus qu'à faire tourner l'imagination, à essayer de leur coller une fin la plus sympa possible, qui ressemble plus à une happy end. Et voilà. Et d'une certaine manière, j'avais déjà l'idée de cette fin dans le but aux mains depuis le début. Je voulais que ça s'arrête là. Mais à un moment, je fais une référence à Autant n'emporte le vent dans le bouquin exprès, au moment où Garance dit j'adore Autant n'emporte le vent. Il fait, ah non, moi, j'aime pas, elle est saoulante. Il lui faut. C'est au moment où elle comprend de qui elle est amoureuse que le tipi s'en va. Voilà, donc c'est un peu le clin d'œil. Après, il faut connaître Autant n'emporte le vent. C'est vrai que c'est un classique qu'aujourd'hui, les gens connaissent peut-être plus. Mais moi, je me souviens que j'avais adoré le livre, j'avais adoré le film, j'avais l'affiche du film dans ma chambre quand j'étais ado. Quoi. C'était. Waouh, c'était magique. Et la reconstitution historique et tout ça, c'était vraiment. Donc voilà, c'était mon clin. Mais j'adore faire des clins d'œil dans mes bouquins sur toute la culture en général. Oui. Je considère que aujourd'hui, c'est très rare d'inventer. On recycle, enfin, on utilise une idée puis on va la raconter à notre façon. Mmh. Mais les vraies grandes idées hyper originales, on en a quand même de moins en moins. Et donc j'aime bien faire des petits clins d'œil pour dire j'ai conscience que ça peut ressembler à ça, mais c'est voilà, je le sais.
Un autre thème très présent et très très bien amené là aussi, parce que collant entièrement du début à la fin à l'intrigue, c'est le thème de la musique et notamment du violoncelle, puisque notre héroïne joue du violoncelle au conservatoire. Je crois que vous écrivez souvent. Enfin, en tout cas pour ce roman-là, en musique.
Ah oui, mais là, c'était pratique.
Et ça va jusqu'à quel point?
Là, c'est quand j'écris une scène et qu'il y a la musique qui est décrite dans la scène, je la mets en boucle pendant toute l'écriture du chapitre, ça, c'est sûr. Parfois, j'écris dans le silence. Parfois, j'ai vraiment besoin d'être dans le silence total. Mais c'est vrai que là, cette histoire, c'était facile d'être accompagnée par la musique. C'était pour moi une évidence. Ça faisait aussi longtemps que je voulais explorer cette facette. Comme je l'explique souvent, je trouve que... Moi, je ne sais pas écrire des paroles de chansons. Je trouve qu'arriver à faire passer autant d'émotions dans si peu de mots... Moi, il me faut 300 pages, quoi. Ce n'est pas possible en quelques rimes. Donc, je suis toujours épatée par des chansons avec des paroles qui peuvent être d'une force. Et souvent, c'est là où on voit que les sentiments sont... Voilà, tout le monde les ressent les mêmes choses, parce que parfois on écoute les paroles d'une chanson, on se dit oh, elle a été écrite pour moi celle-là, c'est exactement ce que je ressens en même temps. Et alors là, on l'écoute en boucle et on pleure parce que ça rappelle exactement comment il nous a quittés, le salaud, tout ça et tout. Et donc c'est vrai qu'on a tellement d'écho dans les paroles des chansons, et quand la mélodie accompagne merveilleusement bien des belles paroles qui nous touchent, alors là c'est l'apothéose. Que je me suis dit, c'est dingue, parce que souvent, on vit quelque chose dans le quotidien, et puis on a besoin d'écouter la musique qui va nous rappeler ce qu'on vit et qui va nous aider à expulser un peu certaines émotions à travers les notes et à travers les paroles. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser cet écho entre les paroles des chansons et les émotions de mes personnages. Eux aussi ressentent des émotions, aussi traversent des moments qui peuvent être sympas ou difficiles. Et pourquoi pas aller chercher les paroles qui vont coller du mieux possible sur ces émotions. Alors, il y a une partie des chansons que j'avais déjà en stock, que je savais déjà que j'allais utiliser, parce que je les écoutais déjà et je les aimais déjà. Et puis, il y a eu un gros travail de recherche.
Oui, c'est ce que je me suis dit.
Ouais.
Parce que toutes les paroles des chansons collent au plus juste de l'intrigue à des moments très choisis.
Mais ça a été un travail assez long, mais très agréable.
Oui, de défrichage.
Il suffit de taper une chanson sur Google, quelle est la plus belle chanson d'amour à votre avis. Puis là, on tombe sur des gens qui laissent des listes et des listes de chansons. Alors, on découvre des trucs, je ne savais même pas que ça existait. Après, il faut trouver les paroles sur Google. Ça aide aussi d'aller chercher les paroles pour voir si on a bien compris et que ça correspond bien à ce qu'on imagine. Et là, après, c'est de choisir entre toutes celles qu'on a trouvées, celle qui va aller le mieux. Et parfois, on a des belles découvertes. J'ai des chansons que je ne connaissais pas du tout. Et quand je les écoutais, je me suis dit, mais c'est tellement ça, c'est fait pour, c'est génial. Et encore une fois, on dit, elle a été écrite pour ça, la chanson. Mais non, c'est comme quoi, comme je dis, les émotions sont universelles. Et je trouvais ça vraiment intéressant, d'autant plus que comme les deux personnages principaux sont des musiciens. Voilà, c'était... Et puis ça avait un côté aussi un peu comme ces films... où il y a la fille qui fait de la danse hyper classique et le mec qui danse dans le street machin là et qui fait ses tourniquets dans tous les sens. Et ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, et lui qui vient de la rue et elle qui vient de la bourgeoisie avec ses petits, son tutu et tout, ils vont se mélanger et il va la faire progresser à mort parce qu'il lui fait découvrir un autre style de danse. Et là, on est un petit peu dans ce côté-là, avec elle, son côté très classique et son violoncelle et tout ça, et sa musique classique dans laquelle elle baigne depuis toujours. Et lui, il arrive et il lui dit « Mais attends, il y a ça, ça et ça qui est magnifique aussi. » Et ça l'ouvre à une autre musique et ça la sublime dans son instrument. Il y avait aussi un peu ce côté que j'aimais bien. C'est mon côté girly.
Non, mais il est très supportable, le côté girly. Est-ce que j'ai lu quelque part que vous aviez appris le violoncelle pour...
Oui, j'ai pris des cours de violoncelle.
Ça va jusque-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Professionnalisme.
Ah ouais, mais il faut, c'est important. C'est comme quand je décris une autre planète, je vais sur cette planète pour la décrire. Cela dit, j'ai des gens qui m'ont déjà demandé si, par exemple pour la quête des livres au monde, si c'était autobiographique. Et je leur dis, mais bien sûr, j'ai des ailes dans le dos, elles sont bien cachées. Mais... Voilà, donc bon, bref. Là, en l'occurrence, ça faisait longtemps que le violoncelle était un instrument qui m'attirait. Moi, j'ai fait 12 ans de musique à l'École nationale de musique quand j'étais jeune. Donc, j'avais un très haut niveau. En fait, j'ai arrêté juste à l'avant l'examen final parce que c'était l'année du bac et ma prof de flûte est morte cette année-là. Enfin, c'était un peu glauque. Bref, j'ai arrêté le solfège, j'ai tout arrêté cette année-là. Mais en fait, si j'avais passé l'examen, j'aurais le niveau d'un musicien professionnel. Je pourrais être prof de musique et des choses comme ça. Donc, j'étais quand même à un niveau assez élevé. Je ne me rendais pas trop compte à l'époque, parce qu'on fait les années les unes après les autres, on suit le parcours et puis on n'y réfléchit pas. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie. Et c'est vrai que j'ai baigné dans une ambiance musicale très classique dans ma jeunesse. Mes parents écoutaient beaucoup de classique. Quand on va au conservatoire, on est forcément baigné dans le classique. Et donc ça fait vraiment partie de ma vie. Et le violoncelle, c'est un instrument qui m'a toujours fascinée. Et là, c'était un peu l'excuse pour m'y mettre. Et donc voilà, donc j'ai loué un violoncelle, j'ai trouvé une prof de violoncelle et j'ai pris des cours. Et c'était, à mon avis, indispensable, hein, parce que les sensations d'un instrument aussi gros, parce que moi, j'ai fait de la flûte, donc ça se transporte dans un sac, quoi, une flûte, qu'on pose sur soi et qui vibre comme ça, parce que c'est vraiment... On est posé là, comme ça, et puis c'est imposant, et c'est dur, ça fait mal aux doigts. C'est vraiment un instrument qui est vraiment intéressant. Et les sensations qu'on éprouve en jouant du violoncelle, c'est pas du tout les mêmes que quand on joue du piano ou quand on joue de la flûte. Là, en ce moment, je prends des cours de piano, donc je peux en parler. Je peux comparer d'autant plus. On n'a pas le même rapport, même charnel, à l'instrument. Et donc, c'était vraiment intéressant de prendre des cours de violoncelle. J'ai arrêté depuis, mais ça a vraiment été une super expérience. Et maintenant, quand j'écoute du violoncelle et que je sais à quel point c'est difficile, j'admire d'autant plus les joueurs de violoncelle d'arriver à des résultats pareils. Donc c'est vrai, j'ai pris des cours de violoncelle pendant 6 mois, 8 mois pour pouvoir être un peu mieux dans le... Bah, trouver les mots, tout simplement, pour décrire ce que vit Anaya quand elle joue du violoncelle.
Oui, son ressenti. Je ne sais plus ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des histoires d'amour, mis à part Autant d'emporte le vent, qui vous ont inspiré, dont vous êtes servi pour cette série ou pas ? C'est vraiment cet archétype-là ?
Non, je n'ai pas eu envie tellement de me plonger là-dedans, parce que je trouve que c'est facile après de copier, parce que bon, les sentiments, ça reste des sentiments. Un garçon qui plaît à une fille qui plaît à un garçon, ou même deux garçons qui se plaisent ou deux filles qui se plaisent, les sentiments sont les mêmes. Donc je veux... Non, je pense que j'ai essayé vraiment d'écrire ma propre histoire. Alors après, on peut toujours trouver des échos avec d'autres, certainement. Je ne sais pas, de toute façon. C'est ce que je dis souvent quand des gens qui me disent « ça ressemble à ça », je dis « oui, mais je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, je ne peux pas tout lire, je ne peux pas tout voir ». Et je pense que j'aime bien cette notion qui dit que les idées sont dans une espèce de nous-sphère, cette espèce de nuage de pensée qui est là et dans lequel on pioche parfois, enfin même souvent, la plupart du temps, inconsciemment. Et je pense qu'on pioche tous dans les mêmes sources d'inspiration et il y a forcément des échos qui se crée. Maintenant, non, j'ai vraiment essayé d'écrire ma propre histoire. De toute façon, quand on écrit une histoire, il y a des choses... Voilà, on veut créer un univers. Et même si l'univers va se construire de lui-même au moment où on est lancé dedans, il y a quand même des fondations qu'on est obligé de poser nous-mêmes et qui ne devront pas bouger. Le fait qu'elle déménage dans le sud, ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire parce que je suis parisienne et que j'ai un oncle qui vit dans le Var et qui a une maison là-bas, un mât magnifique avec la piscine, la pinette, tout. Hein, et donc, quand je vais là-bas, je suis là, oh, avec le filet de bave, je veux la même chose. Et je trouvais ça intéressant de le décrire par les yeux de quelqu'un qui n'a pas vécu toute sa vie là-bas. Parce que si elle a vécu toute sa vie là-bas, c'est banal, c'est classique. Et donc, il n'y a rien de remarquable et il n'y a pas besoin de signaler à quel point la pinède est comme ci, à quel point la végétation est comme ça, et la météo, c'est parfaitement normal pour elle. Alors, c'est pas intéressant. Donc, de la faire venir d'ailleurs et de la plonger dans cette région, avec tout ce que ça a différent avec son ancienne vie, ça permet d'insister sur certains détails. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Donc, du coup, dans ma tête, il fallait qu'elle déménage pour avoir ce regard nouveau et neuf sur les choses. Il fallait qu'elle aille dans un nouvel établissement scolaire pour rencontrer des gens qu'elle ne connaissait pas, donc les deux garçons en l'occurrence. Et plutôt que de la faire changer de lycée, je trouvais que de la faire rentrer à la fac, ça donnait un petit côté un peu plus adulte. On change d'univers, on va faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc une fois que ça, c'est des choses qui découlent un peu d'elles-mêmes quand on décide de poser les fondations de l'histoire. Alors ça peut ressembler à d'autres choses, mais je ne l'ai pas fait pour que ça ressemble à d'autres choses, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était la seule solution de raconter l'histoire comme je voulais la raconter, tout simplement.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur la littérature estampillée ado, même si je crois qu'on est d'accord sur le sujet, il n'y a pas une littérature, il y a de la littérature tout court, pas spécialement jeunesse ou pas, mais enfin, d'un point de vue éditorial, il y a deux secteurs différents, en tout cas. Comment vous la voyez évoluer ?
Ah, moi, j'en lis pas mal. Bon, je ne lis pas que ça, mais j'en lis pas mal. Déjà parce que j'aime bien voir ce qui se fait ailleurs. Et puis surtout, parce que c'est des histoires que j'aurais adoré lire. Moi, tout ça, ça n'existait pas quand j'étais ado. Et on passait de la bibliothèque rose à la bibliothèque verte, à la bibliothèque adulte. Comme ça, il n'y avait pas d'intermédiaire ou tellement peu que toute cette littérature-là... qu'est-ce que j'aurais dévoré si j'avais eu ça à ma disposition il y a... X années. Mais c'est vrai que je la trouve. Alors, bon, c'est comme pour tout le reste, c'est comme pour la littérature en général. Il y a des super trucs et puis des trucs un peu moins bons. Il y a des livres, j'ai lu, je me suis dit, mais. Enfin, c'est mes goûts à moi. Hein. Après, c'est comme tout le monde. Il y en a qui vont adorer des trucs et détester d'autres. Moi, je suis pareil. Hein. Il y a des livres où je me suis dit, oula.
Pourquoi ?
Mais voilà, qui a eu l'idée ? Mais globalement, je trouve que c'est quand même une littérature de qualité qui nous emmène très loin. Je trouve qu'il n'y a pas de limite dans l'imaginaire, dans ce qu'on veut faire passer comme message. Et j'ai lu des trucs qui m'ont vraiment transportée, vraiment. J'aime bien. Je suis contente que ça se développe et je suis surtout contente de voir que justement, malgré l'estampillage young adulte, ado, etc., ça dépasse largement ses frontières. Je l'avais déjà remarqué avant avec mes autres bouquins, ce qui peut paraître plus étonnant parce qu'ils s'adressent pour certains d'entre eux à un public peut-être plus jeune. Mais j'ai toujours eu plein d'adultes qui m'ont lu et je constate avec Phoenix que j'en ai encore plus. Et je trouve ça super parce que c'est pas parce que les héros ont 17-18 ans qu'ils en sont moins intéressants ou qu'ils n'ont pas une profondeur ou ils n'ont pas une histoire à raconter au même titre qu'un héros qui aurait 40-50 ans pour la littérature vieillesse. Donc, non, je trouve que chaque personnage, quel que soit son âge, quel que soit son contexte, a une histoire à raconter. Et à partir du moment où on a envie qu'il nous la raconte, peu importe quel genre de littérature c'est. Donc, je suis très contente de voir que vraiment les frontières sont largement explosées et qu'il y a tous les âges, aussi bien plus jeunes que plus âgés, tant que les gens sont passionnés, c'est l'essentiel.
Et du coup, quand vous écrivez, vous pensez à un lecteur en particulier ?
Non, jamais.
Jamais.
J'en ai rencontré beaucoup des lecteurs. Avec les deux années du Prix des Incorruptibles, on fait la tournée des collèges pour rencontrer les lecteurs qui participent au prix. Et au total, j'ai rencontré 5000 collégiens en 2 ans. Donc ça, c'est pour la partie collège. Et ensuite, quand on est en salon, on rencontre énormément de lecteurs qui viennent nous voir en salon et qui prennent le temps de parler avec nous. Et là, encore une fois, tous les âges. Et c'est pas possible de mélanger toutes ces personnes tellement différentes les unes des autres en une seule... on sait pas à qui on s'adresse. Alors, on s'adresse à tout le monde et à personne en particulier. Et moi, je calcule pas du tout. J'écris une histoire. Alors, c'est vrai que l'histoire... La façon dont je l'écris va être différente, pas tellement par rapport à la tranche d'âge à laquelle elle s'adresse, mais par rapport à l'âge du héros. c'est ça qui va dicter la façon dont je vais écrire l'histoire, parce que quand j'écris un héros qui a 10 ans, parce que ça m'est arrivé aussi, et ça va certainement se reproduire bientôt, un héros qui en a 14, un héros qui en a 16, un héros qui en a 20, forcément, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, la façon dont l'histoire va se construire et dont je vais trouver mes mots pour l'écrire ne vont pas du tout être les mêmes. Donc, les problématiques vont être abordées différemment. La sexualité dans Phoenix, ce n'est pas du tout la même façon de l'aborder que dans La Quête des Livres au Monde, parce qu'ils ont 16 ans, et là, ils sont à la fac, ils tendent vers leur vingtaine, et que forcément, on n'a pas la même approche à son corps, au corps de l'autre, et à des choses comme ça. Enfin, je pense. J'espère.
Je crois.
Donc voilà. Mais c'est ça qui va dicter la façon dont je vais écrire l'histoire. C'est mes personnages et pas à qui je vais m'adresser. C'est très compliqué. J'ai eu un lecteur qui avait le syndrome d'Asperger et donc qui supportait pas qu'on le touche et qui a été vraiment, qui s'est senti concerné par le personnage de Zeke dans La Quête des Livres au Monde, hein, parce que pour lui, toute la transformation quand ses ailes poussent et la nuit d'horreur qu'il vit avec le sang, parce que c'est quand ses ailes poussent, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est pas du tout tralala, chouette, j'ai des ailes, quoi. Ça fait mal, il y a du sang qui coule. Voilà. Et lui, pour lui, tout ça, c'était vraiment la métaphore du corps qui change et du rapport qu'on peut avoir à son corps. Et de découvrir son nouveau corps quand on est ado et qu'on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça ne ressemble plus à ce que j'avais avant? Et j'en ai beaucoup parlé avec lui et c'était intéressant et en même temps, ça faisait un peu peur de voir à quel point ce que j'avais voulu écrire comme une histoire d'aventure, un héros qui en fait se révèle être un extraterrestre, ça l'avait touché d'une façon que j'aurais jamais imaginée. Donc, on ne peut pas savoir à qui on écrit. C'est complètement impossible. On va avoir des cas particuliers comme ça qui vont se révéler et on va se rendre compte que finalement, on a touché la personne, on lui a fait du bien ou du mal, j'en sais rien, ça peut dépendre. Mais alors, si on se met à réfléchir à tout ça... On est paralysé, là, on n'écrit plus, c'est terminé. Donc non, j'écris l'histoire telle que j'en ai envie. J'ai pas de barrière, ni de mon éditeur, ni du fantasme de mon lecteur que je peux me créer mentalement. Je me lance dans une histoire, mes personnages me guident, ils s'inventent eux-mêmes, ils construisent eux-mêmes leur histoire. Et là, c'est moi qui me trouve embarquée et j'ai presque plus le contrôle. Allons-y.
Est-ce que on pourra vous voir un jour dans un registre autre que le registre de l'imaginaire? Est-ce que ça vous inspire aussi une histoire vraiment sans magie ou...
Là, je suis en train d'écrire un thriller ado. Donc, il n'y a pas de magie, comme on dit. Je touche un domaine qui est à la limite quand même, mais qui est quelque chose qui a vraiment existé. Moi, je ne peux pas en dire plus parce que pour l'instant, ce n'est même pas signé. Enfin bon, quand c'est tous les prémices d'un projet... Il y a tellement de choses qui peuvent le faire capoter que c'est pas la peine de commencer à en parler parce que dans 2 mois, je peux dire, finalement, ça se fait pas. Mais bon, en tout cas, ce que j'ai commencé à écrire, c'est du domaine du réaliste total. Mais on va dire que j'utilise quelque chose qui existe, sur lequel il y a eu des vraies recherches qui ont été faites, mais qui sont limites.
D'accord.
Tadam ! Mais de quoi elle parle ?
C'est du pur suspense. Un projet chez Soon, je crois, à la rentrée.
Oui, j'ai un nouveau Soon qui sort. Donc, il y a Les Clés de Babel qui était sorti en 2009. Et je sors un nouveau roman qui s'appelle Les Sentinelles du Futur le 5 septembre. Donc là, vraiment, on registre de la science-fiction puisque Soon, c'est une collection de science-fiction. Donc, là,
excellente.
Oui, c'est vraiment une super collection. Il y a des collections dont on se dit, je suis trop fière d'en faire partie. Soon, ça fait vraiment partie des collections que je trouve... vraiment bien, et c'est Denis Guillot, le directeur de collection, qui avait créé Autre Monde chez Mango, qui a quitté Mango, qui a créé Soon chez Syros. Et donc, il est très sélectif. C'est... Pour bosser avec lui, c'est... donc, c'est encore plus agréable de savoir qu'on peut faire partie de cette grande aventure. Et moi, ça me permet aussi d'écrire des... J'adore la science-fiction, c'est avec ça que j'ai commencé. Chez moi, j'avais tous les grands classiques de la science-fiction. Mon père était un grand fan. Il y avait tous les Asimov, Van Vogt, Jack Vance, Clifford Decimac, et j'en oublie certainement, qui étaient à la maison à ma disposition. Et donc, comme il n'y avait pas de lecture ado à l'époque, à 12-13 ans, j'ai commencé à me plonger là-dedans. Et pendant des années, je n'ai lu que ça. Et donc, moi, j'adore ça, la science-fiction. C'est vraiment un univers qui me tient à cœur. Et pouvoir m'amuser à écrire des histoires de science-fiction à travers cette collection, c'est un vrai plaisir.
Donc c'est presque un rêve
oui,
de c'est, passer de l'autre côté un
c'est
petit
ça,
peu.
C'est un peu retrouver ses origines, mais en plus simple, parce que dans science-fiction, il y a quand même science, même si c'est de moins en moins. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, j'y comprends rien, tous ces trucs-là. Donc ça reste quand même beaucoup plus de la fiction. Mais voilà, c'est voyage dans le temps. Dans les films de Babel, c'est post-apocalyptique. Les Sentinelles du futur, c'est un voyage dans le temps. C'est deux périodes du temps qui se déroulent en parallèle, à 300 ans d'écart. C'est à la fois une histoire d'amour entre un garçon de 2359 et une fille de 2659. C'est deux terres, la même, hein, mais bon, à deux époques différentes, qui sont en danger. Et il faut trouver les solutions pour les sauver à travers deux époques. Donc voilà, c'est... Je me suis amusée parce que les boucles temporelles, c'est toujours un peu compliqué. Il faut être sûr que tout soit crédible et qu'on ne fait pas de faux pas et qu'on ne se contredit pas. Mais c'est un bon exercice de l'esprit. Et quand on y arrive, c'est... Ouais, c'est bon.
Donc, ça, c'est rendez-vous septembre. Et si aujourd'hui, là, tout de suite, vous aviez un livre à conseiller aux jeunes gens devant nous?
Qu'un seul, non, c'est pas possible.
Trois, allez.
12.
12, si c'est rapide.
Non, je sais pas, c'est difficile parce que déjà ça dépend des goûts des gens et on n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, je peux vous conseiller un livre de SF et vous me dire, ah, je déteste la SF. Et en même temps, je vous dis, mais non, faut toujours essayer.
Non, mais le vôtre, celui qui est toujours au top de la liste.
Un de mes livres ouais. Ah, pardon, j'avais compris, un livre en général.
Non, mais un livre d'un autre auteur que vous, qui pour vous est le plus marquant. Vous avez 3 à 3.
Ils sont un peu jeunes, mais il y a vraiment un livre que j'avais adoré et que je pense qu'il faudrait que je relise parce que j'ai déjà lu 2 fois et je pense qu'il faudrait que je le relise maintenant parce que je suis sûre qu'avec plusieurs années de recul, je le vivrai pas de la même façon. C'est Hyperion d'Anne Simons, qui est d'une complexité et en même temps, je me dis, mais comment on peut avoir des idées pareilles? C'est énorme. Bon, c'est de la science-fiction, faut aimer, mais c'est parfois un peu complexe aussi. Mais c'est... Ouais, pour moi, ça, c'est... je sais très bien que c'est le genre de truc que j'arriverai jamais à écrire. C'est pas... non, faut savoir rester à sa place. Voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé comme bouquin? Mes problèmes, c'est que je les oublie. C'est-à-dire que comme j'en lis un nouveau que je vais aimer...
C'est la question piège.
Ah, c'est dur. Comme
celle que je réserve pour la fin.
Les guerriers du silence de Pierre Bordage.
Ouais.
Ah, ça a été pour moi... un coup de cœur énorme parce que c'était la première fois que je lisais de la science-fiction écrite par un Français. Et jusqu'ici, avant de lire ce bouquin, je ne savais pas du tout que ça existait, la science-fiction écrite par un Français. Je lisais que de la science-fiction anglo-saxonne. Et donc, quand j'ai lu Les guerriers du silence de Pierre Bordage, j'avais un peu plus de 20 ans à l'époque. C'était au moment où il s'est sorti. Donc, c'était publié chez La Talente. Et je me suis dit, donc, il y a des Français qui font de la science-fiction chez La Talente. Et je me suis dit, un jour, je serai publiée chez La Talente.
Eh bien, c'est fait.
Et c'est fait. Mais c'est vrai que ça a été pour moi une espèce de déclencheur, une prise de conscience de me dire... C'est-à-dire que jusqu'ici, je lisais de la science-fiction vraiment anglo-saxonne. En plus, maintenant, ça change. Mais à l'époque, c'était quasiment que des hommes qui en écrivaient. Et donc, il y a plein de barrières. On se dit, bon, je suis française, je suis une fille. Voilà, il y a plein de trucs. Ça se fera jamais. C'est bon, si je continuerai à écrire dans mes cahiers pour moi. Et puis, d'un seul coup, je tiens ce livre. Alors, même si Pierre est un homme... il est français, ce qui était déjà quand même une qualité nouvelle. Et La Talente était une maison d'édition française qui publiait de la science-fiction française. Ça existe. Ouais. Et donc, pour moi, c'était d'un seul coup un chemin qui se trace devant moi en me disant, mais si je suis ce chemin, j'y arriverai peut-être. Et finalement, voilà, j'ai publié 7 bouquins chez La Talente. Donc, je suis plutôt contente. C'est comme quoi les rêves peuvent se réaliser aussi de temps en temps.
Dorégo?
Ah oui, alors on dit d'Oregon personnellement, mais après on peut prendre, c'est comme on veut. Alors là, ils sont plus âgés, les personnages, ils ont la vingtaine. Mia est étudiante aux Beaux-Arts et elle peint depuis qu'elle est toute petite un monde qu'elle imagine et qu'elle a appelé d'Oregon. Voilà. Et donc elle s'amuse à peindre des paysages, des visages au fusain, des choses comme ça. Et un jour, elle hérite d'une espèce de pouvoir qu'on appelle le secret, avec un S majuscule très important, qui lui permet de rentrer dans ses peintures. Et donc elle rentre dans d'Oregon et elle découvre alors que c'est pas du tout un monde qu'elle a imaginé, c'est un monde qui existe, mais elle est connectée à ce monde et c'est pour ça que d'une certaine manière elle en avait les images dans sa tête, et qu'en fait d'Oregon c'est un monde en perpétuel changement, sauf un élément qui est un couloir presque infini puisqu'on n'en voit jamais la fin. Et ce couloir, Ces murs sont couverts de tableaux, et chaque tableau est une porte vers un autre monde. C'est pour ça que le premier tome s'appelle « Les portes de Dorégone », puisqu'elle va découvrir ce... En fait, Dorégone, c'est une espèce de sas à partir duquel s'ouvrent plein d'autres portes vers plein d'autres mondes. Et elle, elle a le pouvoir de rentrer dans tous ces mondes. Il suffit qu'elle choisisse le tableau, qu'elle se plante devant, et vloup, elle rentre dans ce monde. Voilà, donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'elle a le pouvoir de rentrer en Dorégone ? Parce qu'elle doit devenir le gardien de Dorégone. Parce qu'il y a des mondes qui s'ouvrent en permanence. Donc il y a des nouveaux tableaux qui apparaissent comme ça dans le couloir, et c'est pour ça qu'il est infini, parce qu'il y a toujours des tas de créations de mondes qui arrivent. Et elle, elle doit surveiller les nouveaux mondes qui se créent par un biais un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut lire l'histoire pour comprendre. Elle est dans la tête d'un limbiote, qui est une espèce de lynx télépathique qui lui permet de voir les mondes en création, etc. C'est à elle de juger si ces mondes qui s'ouvrent sont dangereux ou pas. Et quand elle décide que ce monde est dangereux, elle a le pouvoir de sceller la porte, le tableau, pour dire « plus personne n'entre, plus personne ne sort ». Comme ça, ça protège tous les autres mondes qui existent. Mais un jour, il va y avoir un danger qui va menacer Dorégone. Et simplement, ce danger, c'est Mia elle-même qui va le faire entrer dans Dorégone.
Et c'est une super trilogie aussi. Donc le temps nous manque pour en parler plus en détail, mais il y a aussi une très belle ambiance, donc complètement différente de Phénix.
Oui, là c'est... Phénix, comme je dis, c'était vraiment un essai sur la romance qui est vraiment basé sur l'émotion et sur l'ambiance. Et donc c'était typique à cette duologie-là. Ce que je fais par ailleurs, c'est pas du tout ce que je fais. Ce qui est là, c'est vraiment... une parenthèse, et puis je vais passer à d'autres choses qui peuvent être des mélanges de ce que j'ai exploré dans Phénix et des mélanges de ce que j'ai exploré dans mes autres romans. Mais voilà, comme je le dis souvent, il y a des auteurs qui vont passer 15 tomes sur un même monde, et moi c'est un truc que je peux pas du tout faire. Je me lasse trop vite, j'aurais l'impression de rabâcher tout le temps la même chose, la lassitude de l'auteur et peut-être certainement la lassitude du lecteur en face.
Et des libraires aussi.
Ouais, peut-être, je sais pas, comment ça marche pour vous, mais j'avoue que moi j'ai besoin de partir, voilà, je fais mes bagages et je pars sur un nouveau monde, une nouvelle époque, une nouvelle aventure, et il faut que ça change, et il faut que ce soit différent, il faut que les problématiques soient pas les mêmes, il faut que mes personnages m'embarquent ailleurs. J'aurais vraiment l'impression, si j'ai l'impression de raconter tout le temps la même histoire, mais si j'arrête d'écrire, quoi, je deviens libraire pour découvrir les livres des autres. Mais j'arrête parce qu'au bout d'un moment, il faut écrire tout le temps la même chose. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas Alors je sais que je me mets en danger parce que les auteurs qui ont trouvé un bon filon, qui ont créé une saga et qu'ils exploitent pendant X tomes, ils savent qu'ils ont un public qui est déjà là, capté. Et même s'ils en perdent en route, il y en aura toujours des nouveaux qui vont arriver pour rattraper le truc au début. Et c'est assez confortable pour eux. C'est vrai que c'est se mettre en danger aussi que de proposer des univers différents à chaque fois, parce qu'on se dit, voilà, j'ai réussi à capter tel genre de lecteur sur telle saga, est-ce qu'ils vont me suivre sur les prochaines ? Rien n'est moins sûr, mais tant pis. En même temps, je fais ça aussi pour m'amuser, je fais ça aussi pour offrir des voyages aux gens qui sont prêts à partir avec moi dans ces univers. Si c'est pour leur servir la même soupe à chaque fois et du réchauffer, en plus, c'est pas... Moi, je considère que c'est pas intéressant. Je dis pas que les longues sagas sont comme ça, mais moi, je sais qu'en tant que lectrice, un truc de 15 tomes, je peux pas, quoi. Même moi, en tant que lectrice, donc en tant qu'auteur, c'est pas envisageable pour moi. La trilogie, je crois que c'est mon grand maximum. Donc j'ai pas peur, je pars à l'aventure de nouveaux horizons à chaque fois.
Eh bien voilà, vous savez maintenant qu'avec Karina, vous aurez toujours de nouvelles surprises. Donc on les attend avec impatience.
Merci.
Merci Karina.
Merci.